Depuis le début de ces conversations du lundi, je vous parle de conditionnement, je vous parle de manipulation à l'échelle mondiale, et vous êtes très nombreux à me poser cette question, mais pourquoi l'élite mondiale nous maltraite tellement? Eh bien, c'est la réponse que j'aimerais, ou en tout cas un début de réponse que j'aimerais vous donner aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette dernière conversation du lundi de 2019. Nous sommes le 16 décembre 2019 et effectivement, je vous confirme déjà qu'il n'y aura pas de conversation ni le 23 ni le 30 décembre. Donc la prochaine fois qu'on se verra, ce sera aux alentours du 6 janvier 2020 puisque je me prépare à partir en retraite comme chaque année depuis plus de 25 ans maintenant, une retraite du solstice, autour du solstice d'hiver, puisque pour moi, cette période de l'année où les nuits sont les plus longues, eh bien, c'est une période qui m'invite à l'introspection, qui m'invite aussi à faire le bilan des 12 mois qui viennent de s'écouler pour moi. Et je trouvais en plus très sympa, mais bon, ça c'est un peu le hasard du calendrier, que je termine cette année 2019 avec 21 conversations du lundi, et oui, 21. Et 21, comme vous le savez probablement, c'est un chiffre sacré. On parle de 21 jours de jeûne, on parle de quête de vision pendant 21 jours, on parle de défi des 21 jours, etc. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, 21 c'est 3 fois 7, 3 et 7 étant des chiffres sacrés tous les deux. Donc, terminer cette année par le chiffre 21, je trouvais ça très intéressant. D'autant plus que j'ai une bonne nouvelle, j'avais envie de terminer ces conversations du lundi par une note plus positive parce que, bon, ben, vous le savez, j'ai pris la résolution depuis quelques semaines de vous alerter sur certains éléments qui menacent notre survie, qui menacent la survie de l'humanité. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui me traitent de conspirationniste, qui me traitent de complotiste, mais je suis désolé, quand j'ai des informations qui me permettent, des informations documentées qui me permettent d'avoir la preuve que des choses sont en train, des décisions sont prises par les plus hautes instances de notre monde et qui vont à l'encontre du bien-être, mais aussi de la survie purement et simplement de l'humanité, je dirais que ça, ce n'est plus du conspirationnisme, c'est simplement lancer des alertes. Un peu de la même façon que si j'étais au courant qu'un tsunami s'en vient alors que vous êtes en train de vous faire bronzer sur la plage, ben si moi j'ai cette information et que vous ne l'avez pas, ça me paraît tout à fait normal, ça me paraît tout à fait humain de dire « Attention, d'après les informations que j'ai, il y a un tsunami qui s'en vient. Maintenant, tu peux rester bronzé sur la plage, mais moi, je fous le camp parce que dans quelques minutes, tout va être dévasté. » Bien. Alors, évidemment, vous avez été très nombreux à me dire « Oui, mais enfin, Jean-Jacques, est-ce qu'il y a vraiment autant de complots contre les peuples ?» Ma réponse est « Oui, il y a tellement de complots contre les peuples. » Et vous m'avez demandé aussi « Mais quelle est la motivation de ces gens ? Quelle est la motivation de l'élite à vouloir supprimer une bonne partie de l'humanité ?» Donc avoir des visées eugénistes à travers la vaccination, à travers les chemtrails, à travers l'installation de la 5G, l'installation systématique de la 5G, à travers les manipulations génétiques, merci à Monsanto. Quelle est la motivation de ces gens, puisqu'ils ont déjà le pouvoir et la richesse, qu'est-ce que ça va leur apporter de plus à nous décimer finalement? Bien. Alors, bien entendu, c'est très très compliqué à démêler et pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne privée, ceux qui ne le sont pas, eh bien, je ne peux que vous encourager à me rejoindre sur ma chaîne privée. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous ou au-dessus de cette vidéo. Et pour ceux qui sont déjà sur ma chaîne privée, vous savez que je viens de mettre en ligne un nouveau dossier consacré aux opérations sous fausse bannière où je vous ai donner un certain nombre d'éléments qui vous permettront de façon autonome de repérer les mensonges véhiculés par les médias, par les gouvernements et par les puissants de ce monde, en ayant des critères de reconnaissance du modus operandi de cette élite lorsqu'elle décide de faire un mauvais coup, mais d'essayer de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion dans ce dossier, dont la troisième partie d'ailleurs est en ligne depuis ce lundi 16 décembre. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la troisième partie de mon exposé, eh bien allez dans l'onglet Fausse bannière et vous aurez l'occasion de voir la suite de ce que je vous avais préparé à propos de Pearl Harbor, à propos du massacre de l'Ordre du Temple solaire, à propos du 11 septembre, à propos des attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, du 14 juillet, à propos de quoi encore, enfin, toute une série de choses, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Donc, effectivement, c'est extrêmement compliqué de démêler le vrai du faux, surtout que l'élite mondiale, lorsqu'ils font des sales coups, ils essayent toujours de faire porter le chapeau à d'autres personnes qu'eux-mêmes. Et ça paraît parfois inimaginable que un gouvernement puisse froidement décider de la mort de plusieurs milliers de personnes. Simplement pour mettre en place des lois liberticides ou pour pouvoir avoir la légitimation de ficher davantage la population, pour pouvoir la contraindre de plus en plus dans un système dictatorial, mais qui ne dit pas son nom. Parce que au moins l'avantage d'une vraie dictature avec un vrai dictateur et avec une armée qui est dans les rues, eh bien, c'est que là, au moins, on sait qu'on est en dictature. Ce qui est terrible dans les pays occidentaux, c'est que nous sommes également en dictature, mais ce n'est pas dit. Et donc, il pourrait encore y avoir un doute qui plane. Bon, quand j'ai vu la manière dont Macron a réprimé plutôt de façon extrêmement violente les manifestations des Gilets jaunes et que finalement, les seules personnes qui ont été félicitées et remerciées, ce sont les forces de l'ordre qui se sont comportées de façon extrêmement irrespectueuse. Je dirais que on n'a plus trop de doutes sur le fait que nous sommes entrés en dictature depuis que Macron est au pouvoir. Bien. Je reviens à la question que vous m'avez posée, qui est, parce que je vous ai dit que je terminais sur une note positive. Alors vous me demandez, mais Jean-Jacques, ça fait déjà 7 minutes que tu nous parles, et où est la note positive de ta conversation du lundi? Elle s'en vient, les amis. En fait, si je devais répondre à la question quelle est la motivation de l'élite mondiale à vouloir décimer une bonne partie de la population et de mettre le reste de la population en esclavage, je suis incapable de répondre. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que je suis moi-même incapable de répondre. Et si je me risquais à répondre, c'est là que je tomberais dans ce qu'on appelle le conspirationnisme ou le complotisme. C'est-à-dire que pour moi, le conspirationnisme, le complotisme, c'est de prêter des intentions à des agissements d'autres personnes, mais sans avoir les preuves tangibles, les preuves matérielles. Donc la seule chose que je suis capable de faire quand j'examine le dossier du 11 septembre, quand j'examine le dossier du réchauffement climatique, enfin de l'arnaque du réchauffement climatique, lorsque j'examine le dossier de la vaccination, lorsque j'examine le dossier de la 5G, là j'ai des faits. J'ai des faits qui sont établis par des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêts avec ces industries. Parce que, évidemment, il ne faut pas aller chercher auprès des industries les éléments qui vont les remettre en question. Bien entendu, ces industries, cette bonne guerre, vont essayer de peindre toute la réalité en rose en disant, en fait, il n'y a aucun problème au niveau de notre technologie, il n'y a aucun problème au niveau de nos vaccins, mais c'est évident qu'il faut créer une taxe carbone pour lutter contre le réchauffement climatique d'origine humaine, etc., etc. Donc, quand on se base sur des faits, là, on devient un lanceur d'alerte. Vous voyez, ça, c'est la différence que je fais entre un lanceur d'alerte qui tient toujours des discours qui sont établis sur des faits documentés et un conspirationniste qui, lui, va interpréter à partir de sa représentation du monde les intentions de ceux qui agissent et que les lanceurs d'alerte dénoncent. Vous voyez la différence entre les deux? Bien. Et donc, je préfère rester du côté des lanceurs d'alerte, et c'est toujours ce que j'ai fait. Donc, je ne vais pas m'aventurer dans des conjectures en disant ouais, mais c'est parce qu'il y a ça, parce qu'ils ont des contrats avec les extraterrestres ou parce qu'ils veulent faire ceci, etc., etc. Je dirais que ça va pas nous mener très très loin. Et en plus, même si j'avais les preuves de cela, ça ne changerait strictement rien à la réalité et à notre façon de vivre ces choses. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que je peux faire une différence positive dans votre réalité, malgré le fait que nous avons des psychopathes complètement débiles, qui se trouvent à la tête de l'humanité. Avec les 13 familles, dont la famille Rothschild, qui donne un peu ses ordres aux 12 autres familles, ces 13 familles qui elles-mêmes ont créé toute une série de sociétés secrètes, dont elles ne font pas partie, mais à qui elles donnent leurs ordres, hein, que ce soit le club de Bilderberg, que ce soit la trilatérale, que ce soit le CFR, donc le Council for Foreign Relations, etc., etc., qui elles-mêmes vont contrôler les gouvernements et les grosses compagnies commerciales. Donc en fait, c'est ça la hiérarchie. Et puis nous, on est tout en bas de cette hiérarchie et on regarde les choses passer, on se dit, mais quel est le pouvoir que nous avons dans une situation comme cela où, comme je vous l'ai dit dans une autre conversation du lundi, les 7 milliardaires les plus riches du monde possèdent actuellement la même chose que les 50% de l'humanité la plus pauvre. Donc ça veut dire que 3 milliards et demi de personnes ne sont pas plus riches que 7 personnes dans le monde. Donc ça peut faire réfléchir effectivement. Et je me suis dit, mais en fait, la seule manière dont je peux trouver une motivation positive à continuer à vivre sur cette terre, parce que une fois qu'on sait cela, on pourrait se dire, bah alors autant se tirer une balle dans la tête et puis on quitte ce cirque, ce cinéma où nous sommes dirigés par des psychopathes dangereux et complètement, complètement fous, complètement génocidaires, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour garder une attitude positive et une attitude, je dirais, constructive, en tant qu'être humain dans un contexte comme celui-là. Et ma réponse, c'est que la seule façon pour moi de voir les choses sous un œil constructif et positif, c'est de regarder les choses du point de vue spirituel, du point de vue de l'âme. En me rappelant une chose, c'est que l'ombre a toujours travaillé au service de la lumière. Et c'est ça, la note positive que j'aimerais développer maintenant. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est vraiment ça la motivation consciente de l'élite mondiale. Mais peu importe, parce que peut-être que l'élite mondiale est elle-même manipulée par d'autres entités qui sont non terrestres ou qui sont au-delà de la conscience humaine. Peut-être, j'en sais rien. J'ai jamais été voir, je n'en ai aucune preuve. Mais admettons qu'il soit conscient ou inconscient, ça ne change strictement rien. On pourrait dire le rôle de l'élite mondiale, le rôle de cette élite qui a des visées génocidaires. Ça pourrait être de jouer le rôle de l'ombre pour nous forcer, nous les êtres humains, à aller chercher les ressources les plus profondes à l'intérieur de nous pour faire émerger notre conscience, notre lumière, notre capacité d'autonomie et notre capacité d'adaptation. Et dans ce sens-là, on pourrait même avoir de la gratitude vis-à-vis d'eux, en disant, mais finalement, vous êtes devenus, à force d'être des grands méchants, vous êtes devenus nos entraîneurs spirituels. Vous nous aidez finalement à faire de la musculation spirituelle. Et c'est là qu'un tas d'images me sont arrivées, si vous voulez, que j'ai envie de vous partager très rapidement. Parce que qu'est-ce que vous faites si vous avez envie de développer votre musculature physique? Ben, vous allez aller dans une salle de fitness ou dans une salle de bodybuilding. Et qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous serez dans cette salle de fitness ou de bodybuilding? Eh bien, vous allez prendre des poids. et vous allez soulever ces poids. Évidemment, les poids, eux, ils travaillent avec la force de gravitation universelle, c'est-à-dire qu'ils vont vous forcer à développer petit à petit et de façon progressive votre capacité à soulever des poids de plus en plus grands. Et donc, plus les poids sont lourds, plus vous allez développer votre musculature. Alors, ce n'est pas du tout mon trip là, mais il y a des gens pour qui c'est le trip. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'on ne va pas maudire la gravitation universelle et le poids de ces haltères, parce qu'on sait que les haltères sont là justement pour nous développer au niveau musculaire. Et donc, merci à ces poids qui sont lourds, 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 mais qui sont là justement pour nous faire grandir au niveau musculaire. J'ai pensé à un autre exemple. Pendant ma scolarité, aussi bien pendant l'école primaire que l'école secondaire que à l'université, on m'a donné énormément de problèmes de mathématiques ou de physique à résoudre. Et j'adorais résoudre des problèmes, que ce soit en mathématiques, en trigonométrie, en physique, etc. Pourquoi ? Parce que chaque fois que j'étais confronté à un problème, ça m'obligeait à aller chercher des nouvelles ressources à l'intérieur de moi. Et effectivement, j'étais dans ce challenge en disant « Ok, est-ce que je vais être capable cette fois-ci de trouver la solution, de trouver l'issue, de trouver le truc qui va me permettre effectivement de résoudre cette équation du second degré à deux inconnus ?» Et donc, je n'en ai jamais voulu à mes professeurs de mathématiques et de physique en disant mais quelle bande de salauds de me donner des problèmes comme ça à longueur d'année. Non, parce que je savais que ce qu'ils faisaient, c'était pour développer ma capacité à raisonner, ma capacité à calculer, ma capacité à être inventif et créatif dans la recherche d'une nouvelle solution à un problème posé. Et donc, finalement, cette contrainte du problème mathématique a été, je dirais, à la source de mon développement intellectuel. Donc, je suis devenu plus fort intellectuellement grâce à ces problèmes qu'on m'a posés. Et jamais je n'en ai voulu à mes professeurs. Au contraire, j'ai de la gratitude pour le fait qu'ils aient été exigeants vis-à-vis de moi. Donc, nous avons l'exemple du développement musculaire, on a l'exemple du développement intellectuel, du développement rationnel. Je pourrais prendre un troisième exemple qui est tiré de mon expérience, qui est que j'ai appris à jouer du piano entre l'âge de 8 et 15 ans. Donc pendant 7 ans, j'ai eu des cours de piano individuels à raison de 3 quarts d'heure par semaine. Mais tous les jours de la semaine, je devais travailler mon piano, je devais faire des gammes et je devais faire un truc qui était complètement chiant, mais que ma professeure de piano m'imposait. Donc elle m'imposait de faire des gammes tous les jours, mais elle m'imposait aussi de jouer les partitions de carnets d'exercices. Alors ces carnets d'exercices, pour ceux qui n'ont pas fait de musique, eh bien je vous décris ce que c'est. Ce sont des exercices qui délient vos doigts et qui développent votre dextérité. Mais c'est mortel à mourir. Mortel pour deux raisons. D'abord, il n'y a aucune mélodie. C'est simplement, on vous fait travailler. Et vous faites ça pendant une demi-heure minimum par jour. C'est chiant parce qu'il n'y a pas de mélodie, il n'y a rien, c'est pas beau. C'est simplement faire travailler vos doigts. Alors, c'est mortel à ce niveau-là, mais c'est mortel aussi parce que en faisant ça de plus en plus vite, à un moment donné, j'attrapais des crampes carrément dans l'avant-bras droit, parce que à force de faire travailler les doigts, eh ben, à un moment donné, vous attrapez des crampes. Mais qu'est-ce que je suis content, qu'est-ce que je suis reconnaissant de mon professeur de musique de m'avoir imposé cela pendant des années, parce que grâce à cela, quand je prends une nouvelle partition aujourd'hui et que je me mets au piano, eh bien, je sais que mes doigts vont suivre. Je vais avoir la liberté, entendez bien ça, je vais avoir la liberté d'affronter l'épreuve de la partition de musique parce qu'on m'a mis à l'épreuve au niveau de ces gammes et de ces exercices qui n'étaient vraiment pas drôles du tout sur le moment quand je les ai faits. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'il n'en serait pas de même au niveau de notre croissance spirituelle ? Finalement, on pourrait se dire, notre salle d'entraînement spirituel, c'est la planète Terre. Et donc, nous avons un certain nombre d'instructeurs, et ces instructeurs spirituels font semblant, on va dire que c'est un jeu, Ils font semblant d'être méchants. Ils font semblant d'essayer de nous décimer. Ils font semblant d'essayer de nous rendre malades. Ils font semblant de nous affamer, etc., avec tous leurs coups tordus. Mais en réalité, ils sont peut-être là, sur le plan karmique, consciemment ou inconsciemment de nouveau, mais ils font partie d'un jeu spirituel où ils sont au service de notre croissance en termes de conscience et en termes de spiritualité. Ils sont en train de regarder en disant « Est-ce que vous allez être capable d'encaisser davantage les radiations nucléaires ou est-ce que vous allez être capable d'encaisser davantage les rayonnements électromagnétiques ?» parce qu'on est en train de monter de plus en plus la pollution électromagnétique avec le Wi-Fi, avec l'instauration de la 3G, la 4G, maintenant bientôt la 5G, etc. Est-ce que vous allez être capable même de déjouer nos plans avant qu'on ne les mette en place? Donc en fait, on pourrait se dire, mais finalement, notre salle d'entraînement spirituel, c'est notre vie sur Terre. Et on a commencé notre entraînement au moment de notre naissance, et cet entraînement va se terminer au plus tôt au moment de notre mort, peut-être même après notre mort, ça on ne sait pas, on peut laisser ça en suspens pour l'instant. Mais quand vous regardez ça, vous vous dites, à ce moment-là, je veux bien continuer à jouer dans le jeu de l'incarnation. En tout cas, moi c'est ce que je me dis. Parce que vous êtes nombreux aussi sur la chaîne privée à me demander « Mais Jean-Jacques, comment tu fais pour rester aussi positif? Comment tu fais pour rester aussi enjoué, pour avoir même le sens de l'humour, etc. » alors qu'on découvre grâce à la chaîne privée que tu es au courant de toutes ces manipulations, de toutes ces magouilles depuis 40 ans. C'est à l'âge de 18 ans que j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des choses qui ne tournaient pas tout à fait rond sur cette planète. Comment ça se fait que 40 ans plus tard, je suis en pleine forme, j'ai une vision extrêmement positive de l'existence? Mais parce qu'en fait, j'ai compris que je suis dans un jeu. Je suis dans un jeu et mes adversaires sont là juste pour me forcer à grandir en conscience, en amour, en compétence, en connaissance. Ça fait des années que sur la chaîne YouTube, je vous parlais de grandir en conscience, en amour, en compétence. Parce qu'effectivement, c'est ça ma vision de l'existence, c'est ça ma vision de l'incarnation. C'est que nous sommes confrontés à la résistance de la matière pour grandir. De la même façon qu'en étant confrontés à la résistance de la force de gravitation universelle, on fait gonfler nos muscles. De la même façon que quand nous sommes confrontés à des exercices complètement stupides au niveau du piano, on grandit au niveau de notre dextérité. De la même façon que quand nous sommes confrontés à des problèmes de mathématiques ou de physique, nous sommes en train de grandir au niveau intellectuel. Et dans ce sens-là, nous pourrions même nourrir de la reconnaissance en disant « Merci d'avoir accepté de jouer ce rôle vis-à-vis de nous. » Un peu comme si on avait réparti les êtres humains en deux catégories avant l'incarnation, en disant ben « Vous, vous allez jouer les méchants cette fois-ci, et vous, vous allez jouer les gentils ou les victimes, et voir est-ce que vous allez être capable de sortir de ce statut de victime, est-ce que vous allez être capable de grandir en conscience, en amour, en compétence, en connaissance, pour peut-être même jusqu'à déjouer le jeu des méchants à qui on a confié également une responsabilité. » Alors, ça évidemment, ça n'engage que moi comme vision. Mais même si ma vision est complètement fausse, même si ma vision ne correspond à aucune réalité, je trouve quand même intéressant de regarder la vie de cette façon-là plutôt que d'une autre façon. Je ne peux m'empêcher de penser au film « La vie est belle »,« La vita è bella » de Roberto Benigni. Vous vous souvenez peut-être de ce film merveilleux où il se trouve coincé dans un camp de concentration au moment de la Deuxième Guerre mondiale et il fait croire à son enfant qu'ils sont dans un méga-jeu et que le but du jeu, c'est de ne pas être vu par les Allemands, et que si on gagne le jeu, eh bien, la récompense, c'est qu'on recevra un char d'assaut. Et l'enfant, il embarque dans cette vision différente du camp de concentration, qui est une situation complète horreur. Et la fin du film est merveilleuse. En tout cas, si vous n'avez pas vu le film, je ne vais pas vous révéler la fin, mais elle est extraordinairement belle. La fin de ce film. Pourquoi est-ce que nous ne ferions pas la même chose, nous les êtres humains? En disant, bon, peut-être qu'on n'a pas, on n'a pas raison, peut-être que je suis en train de vous raconter des conneries, mais si on regarde les choses en disant, en fait, ils sont en train de faire en sorte que je devienne de plus en plus conscient, que je devienne capable de rester dans l'amour, de rester dans le respect, de rester dans l'alignement de mon être, de rester fidèle à mes valeurs, malgré tout ce qui est en train d'arriver. Et c'est ce qui m'est arrivé à de nombreuses reprises. Vous voyez, quand j'ai été poursuivi et surveillé par la gendarmerie et la police française parce que je donnais des conférences sur les travaux du docteur Hammer et qu'ils étaient à l'entrée de mes salles de conférences ou qu'ils étaient assis au milieu du public, qu'est-ce que je les ai bénis ? Parce que quand ils étaient dans la salle, je savais qu'il fallait que je sois beaucoup plus impeccable au niveau de ma parole lorsque je parlais des travaux du docteur Hammer. Lorsque j'ai été accusé de secte, ça m'a encouragé à aller regarder quels étaient les côtés sectaires potentiellement qui étaient chez moi pour voir comment est-ce que je pouvais encore être davantage aligné et davantage respectueux de l'autonomie des individus que j'accompagnais en tant que formateur professionnel. Qu'est-ce que j'ai béni les commissions parlementaires anti-sectes de m'avoir mis dans la liste des sectes? Ça m'a rendu plus fort, mais ça m'a rendu aussi plus impeccable en tant que guerrier de lumière, si vous voulez. Regardez Nelson Mandela qui a fait, je crois, 25 ou 27 ans de prison. Regardez la lumière qui émanait de cet homme. Regardez quelle a été sa capacité à prendre la présidence de l'Afrique du Sud, mais dans un esprit de réconciliation, dans un esprit d'intégration et pas dans un esprit de revanche. Je pense que s'il n'avait pas fait ses 25 à 27 ans de prison, je ne sais plus exactement, mais je sais que c'est minimum 25, eh bien, il n'aurait pas forgé à l'intérieur de lui cette vision positive et cette vision inconditionnellement respectueuse de l'être humain. Et on peut multiplier les exemples comme ça d'hommes et de femmes qui ont été confrontés à des épreuves, et c'est grâce à ces épreuves, grâce à la dureté de ces épreuves, qu'ils sont devenus ceux qu'ils sont devenus. Hein, je pourrais multiplier les exemples, mais bon, je pense que vous avez compris, mais les sportifs de haut niveau, les sportifs de très haut niveau, ceux qui veulent atteindre le championnat du monde ou les Jeux olympiques, ils ont des entraîneurs qui vont les pousser jusque au-delà de leurs limites. Les militaires, c'est la même chose. Les soldats, même si je suis complètement antimilitariste, mais si je regarde dans la logique militaire, l'entraînement des militaires est fait de telle sorte que les soldats se renforcent et soient de plus en plus capables de réagir sur un théâtre d'opération au milieu d'une guerre et qu'ils puissent s'en sortir. Donc, je dirais que toutes ces choses-là, finalement, peuvent nous donner l'envie de modifier notre regard sur le monde et sur notre propre vie. Et c'est ce à quoi je vous invite, finalement. C'est de dire, finalement, on s'en fout de savoir quelle est la motivation de cette élite mondiale qui a l'air, en tout cas, d'avoir des comportements qui peuvent porter un préjudice grave à la survie d'une bonne partie de l'humanité. En tout cas, si ce n'est pas fait exprès, c'est bien imité. Quand je vois Monsanto qui est en train de rendre les graines du monde entier stériles et manipulées génétiquement, quand je vois l'installation de la 5G, qui est quelque chose qui est probablement le danger le plus grave que j'ai jamais conscientisé au niveau de l'humanité, et je suis en train de préparer un dossier en urgence au niveau de la 5G, mais que vous n'avez que sur ma chaîne privée. Quand je vois la manière dont la vaccination est utilisée aujourd'hui pour rendre les gens malades de plus en plus, etc., etc., je me dis que la seule façon de rester aligné et de rester dans cette attitude positive, c'est de dire « Ok, on s'en fout de savoir s'ils ont vraiment l'intention ou pas de nous foutre en l'air, mais nous, c'est une opportunité extraordinaire d'être des êtres plus conscients, plus autonome, plus aimant, plus responsable et plus connaissant de la réalité du monde. Alors, Ce sera mon vœu le plus cher à l'occasion de la fin de cette année 2019, à l'occasion de cette entrée dans le solstice d'hiver. Pour moi, je préfère célébrer le solstice d'hiver que de fêter la fête commerciale de Noël qui n'a plus beaucoup de sens pour qui que ce soit, je dirais. Et je serai très très heureux de vous retrouver l'année prochaine pour d'autres conversations du lundi. Et prenez bien soin de vous et réfléchissez un peu à ce que je vous ai dit aujourd'hui.